Yes, bonjour à tous. Wow, la vidéo était tellement claire. Je n'ai même plus envie de prêcher. Bon, aujourd'hui on continue la série sur Dessine-moi un chrétien. Bon, ça fait déjà quelques semaines, ça vous aide? Vous aimez la série? Yes. Pour faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas pu faire tous les ou qui n'ont pas pu tous les écouter. Alors déjà, Didier avait prêché la première fois sur donc qu'est-ce qu'un chrétien? Dessine-moi un chrétien. Un chrétien, c'est un disciple de Dieu, un disciple de Christ. Et il disait que en fait, on peut pas être un disciple sans vivre par l'amour, sans vivre en étant complètement dans l'amour. Et ensuite, il y a Grâce qui nous a partagé aussi sur dessine-moi un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a des fondements solides, qui est bâti sur le roc, qui est bâti sur Dieu qui est notre roc. Et ensuite, il y a mon père Gaëtan qui nous a partagé sur la prière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas un chrétien. Donc du coup, et moi, je vais vous parler sur c'est encore la surprise en fait. ce matin, je vais faire comme une suite donc, de la série « Dessine-moi un chrétien », mais je vais faire aussi une suite de mon dernier message que j'avais fait sur la croix. En fait, je vais faire une double suite. Et c'est vrai que la dernière fois, je parlais sur la croix. La croix, c'était donc déjà la crucifixion, c'était un des instruments de torture les plus horribles de toute l'histoire de l'humanité, un des plus horribles. Et que c'est à ce moment-là que Jésus a décidé de venir pour venir pardonner nos fautes, pour nous pardonner de nos péchés, donc c'est-à-dire qu'il est mort pour nous, pour que nous, en fait, nous puissions vivre, c'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'il a pris tous nos péchés à la croix et il nous a donné sa vie à lui, qui était saine, et de cette vie-là, en fait, ça nous donnait la vie, ça nous donne la vie en abondance, on est une nouvelle personne. Et donc, voilà, la croix sauve, la croix, si tu crois en Jésus, ça te sauve, il justifiera tout le monde, grâce au sang de Jésus qui a coulé pour nous. Si tu reconnais, si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu as foi en le sacrifice et les souffrances qu'il a portées pour toi, Dieu te donne sa vie. Amen. Et je me souviens, j'avais terminé en faisant cette prière, en disant, pour tous ceux qui veulent suivre, tous ceux qui veulent s'engager avec Dieu et dire, voilà, Seigneur, j'ai compris, qu'est-ce que tu as fait à la croix pour moi? Eh ben, on avait fait une prière tous ensemble en disant « Seigneur, je t'accepte dans ma vie et je reconnais ce que tu as fait à la croix pour moi, que tu as porté toutes mes souffrances et que maintenant je décide de vivre pour toi. » Et la question que je me suis posée ensuite, c'est que une fois qu'on a fait cette prière, maintenant, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait de nous? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que ça fait de moi en fait? Et voilà, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change pour ma vie maintenant que je suis cette nouvelle personne, que j'ai accepté ce que Jésus a fait. Alors pour illustrer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire, hein. Ne cherchez pas les petits détails, c'est une histoire globale. Donc l'histoire, ça, c'est une histoire entre un père et son fils. Le père et le fils, en fait, ils avaient vraiment une relation très profonde. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'aimaient énormément. Ils allaient cultiver ensemble, ils moissonnaient ensemble, ils partageaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Ils vivaient dans la même maison et ils vivaient vraiment dans cet amour l'un envers l'autre. Et un jour, il y eut comme une incompréhension entre les deux, un malentendu. Et ça irrita le fils. Et le fils, en fait, il claqua la porte à son père. Il dit « Je veux plus te voir, je veux plus de toi ». Il partit. Il alla, il quitta la maison et chercha à rompre tous les liens avec son père. Il chercha une autre maison et pendant plusieurs jours, il chercha une maison, sauf que la seule maison de libre qui était disponible, c'était une maison qui était en face de celle de son père. À la seule différence qu'il y avait juste un grand fleuve qui séparait sa maison avec celle de son père qui était en face et qu'il fallait faire un long, long, long détour pour traverser le fleuve. Et le fils, lui, il était irrité, il avait de l'amertume en lui, il voulait plus voir son père, il voulait plus lui parler, il voulait même l'oublier, tellement il était irrité, tellement il avait gardé cette rancœur en lui. Tandis qu'il savait que son père, lui, l'avait pardonné, il savait que son père ne lui en voulait pas, mais qu'il l'accepterait quoi qu'il arrive. Mais l'enfant avait décidé de ne plus voir son père, de ne plus lui parler, et ce fut vraiment un moment très dur entre les deux. Et... un jour, il y a un ouvrier qui frappa à la porte du fils. Donc le fils, il ouvrit sa porte et l'ouvrier se présenta. Il dit « Bonjour, voilà, je suis un ouvrier, je sais à peu près tout faire dans le bâtiment et justement, je fais du porte-à-porte pour savoir si vous n'avez pas du travail dans les parages ou si vous ne connaissez pas quelqu'un qui a besoin de faire des constructions. » Et le fils lui dit « Bah si, ça tombe bien, moi j'ai besoin. » Alors le fils l'emmena dans sa maison, dans son jardin, et lui dit « Tu vois, au fond là-bas, derrière le fleuve, il y a la maison de mon père. » Et il y a quelque temps, on s'est disputé. Enfin, on a eu une incompréhension et maintenant je ne vais plus le voir, je ne vais plus lui parler. Alors ce que j'aimerais, c'est que tu construises au fond de mon jardin un mur d'au moins 5 mètres de haut en face de sa maison, comme ça je ne pourrai plus voir sa maison. Et l'ouvrier dit « Ok, je comprends la situation, ça marche. » Donc les deux, ils s'attellent là pour réunir le matériel, les matériaux, les outils pour la construction. Et une fois que tout était réuni, le fils dit... Il y a un ami qui l'appela, et donc le fils dit à l'ouvrier « Ouais, je vais voir un ami qui est dans les parages, qui passe dans le coin, mais j'aimerais qu'à mon retour, tu aies terminé la construction. » Donc l'ouvrier lui dit « Ok, pas de souci, ça marche. » Donc le fils partit, et à son retour, au retour du fils, le mur, enfin pas le mur, mais au retour du fils, donc l'ouvrier avait terminé son travail. Sauf que à son grand étonnement au fils, au lieu de construire un grand mur de 5 mètres de haut, l'ouvrier avait construit un pont qui menait direct à son père. Et précisément à ce moment-là, le père sortit de sa maison et vit un pont. Et il vit que le pont menait directement à son fils. Et le père courut vers son fils et le prit dans les bras. Et son fils, ému de compassion, lui dit « Père, je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir oublié, de ne plus t'avoir parlé. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. » Et pendant que le père et le fils fêtaient cette réconciliation ensemble, l'ouvrier ramassa ses outils pour aller travailler autre part. Et non, lui dirent le fils et le père. Il dit, on a encore du travail pour toi. Et l'ouvrier répondit, j'aimerais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire.
Amen.
Amen. Dans cette histoire, selon qui était l'ouvrier ? Exactement. On va aller dans Romains 5, versets 8 à 11. C'est parti. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui avons-nous été réconciliés ? Par Jésus, exactement. Et c'est cette réconciliation qui nous mène directement au Père. Jésus a tracé ce pont, ce chemin vers qui on peut aller. Et là, il y a le Père qui vient vers nous. Quand ce pont a été construit, le Père vient vers nous. Et on a deux choix. Soit de dire « Non, je ne veux pas de toi », ou de faire comme dans l'histoire, comme le fils, dire « Pardon, Père, et je t'accepte ». Et c'est cette réconciliation que Jésus a tracée pour nous. Quand tu crois par la foi et que tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu fais la prière qu'on a fait la dernière fois, tu es réconcilié avec Dieu. Tu as cette réconciliation. Dieu n'est plus en colère contre toi, tu n'es plus ennemi de Dieu, tu es devenu ami de Dieu. Et quand tu es réconcilié, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne, tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. On va aller dans Romains 8, versets 14 et 16, qui nous explique très bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand tu es réconcilié, quand tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu décides de vraiment vivre pour lui, tu es réconcilié avec Dieu. Et Dieu, il est dit, met son esprit en toi. Et quand il met son esprit en toi, l'Esprit de Dieu rend témoignage que tu deviens enfant de Dieu. C'est exactement ce qui expliquait la vidéo. On est devenu enfant de Dieu, c'est devenu notre identité. Nous ne sommes plus ennemis, nous ne sommes plus amis, nous ne sommes plus proches, nous ne sommes plus... Peu importe, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça, moi, la première chose qui m'est venue quand on a dit « dessine-moi un chrétien », pour moi, un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Si je devais dessiner un chrétien, je dessinerais un enfant. Parce que tout chrétien est enfant de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que ça implique pour nous que nous sommes enfants de Dieu ? Je vais le lire dans Romains 4, 7, qui nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ça veut dire qu'en plus que Dieu nous donne donc, cette possibilité d'être enfant de Dieu, Dieu met son esprit qui nous donne d'être enfant de Dieu, il nous donne, on hérite de ce que lui a. Il nous donne ce qu'il a. Et dans la Bible, dans Galates 4, 7, comme je viens de lire, quand on lit « fils », ça signifie « descendant ». On est descendant de Dieu. On vient de Dieu, on provient de lui. Et ce que le Père possède, nous le possédons, car nous sommes descendants. Ça veut dire qu'on hérite de ce que le Père a. Et le Père vit pour toujours, on hérite de cette vie en abondance. On hérite de cette vie avec lui. Par la réconciliation de Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est un privilège inespéré. On ne méritait pas, mais Jésus l'a fait pour nous, par amour pour nous. Est-ce que tu peux m'afficher l'image ? Ah, le roi lion. Quand on parle d'héritier, héritier, moi, ça me fait toujours penser à cette image-là, justement. Et donc, c'est au début du film. Mufasa va dire à Simba, toute cette immensité de lumière est notre royaume. Pas mon royaume, est notre royaume. Quand on dit nous sommes héritiers, le royaume de Dieu devient aussi à nous. Il nous offre, il nous donne ça. Et tout ça parce que Jésus est venu, qu'il a tracé ce chemin et qu'on a juste à accepter, juste à dire « Seigneur, oui, je t'accepte et je décide de vivre pour toi. » Dieu nous fait une grâce tellement immense. Et du coup, quand on est enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Mais nous sommes aussi représentants de Dieu sur la terre, nous sommes les enfants. Et quand un enfant représente son père, quand il agit, il peut faire la joie de son père comme il peut causer la tristesse de son père. Dans Proverbe, il est dit qu'un enfant sage donne de la joie à son père. Tandis que dans Romains 2, il est dit aussi que y a des gens qui se disent, qui étaient juifs à l'époque, qui se disaient juifs, mais qui faisaient honte à Dieu par leurs actes, par ce qu'ils faisaient. Donc on peut causer la tristesse, on peut faire honte à Dieu, comme on peut faire la joie de notre père. Quand on est enfant de Dieu, nous sommes représentants de Dieu. Et j'ai étudié aussi un petit peu la relation qu'il y avait entre un père et un fils, et ce que ça représentait en fait. Et il y a plusieurs études qui montrent, donc c'est des études bien sûr, c'est terrestre, mais les études montrent que le père, c'est le point de repère du fils. C'est-à-dire que quand le fils il avance, il sait où regarder parce qu'il a un point de repère, il sait où il marche. C'est comme si tu marches avec une boussole, tu sais où tu vas parce que tu as une indication. Et pareil, tu as un enfant, tu marches dans la vie, tu te débrouilles, tu fais un choix, mais tu as un point de repère, tu sais où tu vas, tu sais comment. Et le fils voit son père comme un modèle d'identification. On connaît notre identité parce qu'on connaît notre père. Notre père est grand, notre père est riche, notre père est bon. Alors on sait qui on est. Ça détermine aussi notre identité à nous. Donc, tu marches dans la vie, tu as un point de repère, tu sais qui tu es. Et j'avais noté aussi un point qui était intéressant, c'est qu'il disait que le Père, c'est l'autorité. Et que le Père nous aime, et il nous donne aussi, voilà, c'est l'autorité, donc nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Et parce que le Père nous aime, chaque choix qu'il va nous demander de faire, s'il nous demande d'aller à droite, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. S'il nous dit « va là-bas » ou « ne va pas là-bas », c'est pour notre bien. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous connaît, il sait qui nous sommes. Et nous avons besoin de passer plus de temps avec Dieu, de rencontrer encore plus Dieu pour savoir qui nous sommes réellement. Chaque jour qu'on passe avec Dieu, chaque jour qu'on passe avec lui, on se rend compte véritablement de l'importance, de l'identité qu'on a, que Dieu fait de nous. Rien n'est par nous-mêmes. Dieu nous a donné tout. C'est comme dans Romains, il dit, on n'a On n'a pas besoin de se glorifier, rien n'est pour nous. Toute la gloire revient à Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu décides de vivre pour lui, tu es réconcilié avec Dieu. De cette réconciliation, Dieu met son esprit en toi et cet esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu hérites, tu es héritier de Dieu. Et tu es aussi représentant. Comment représenter Dieu ? En vivant dans la sainteté. Vous savez, souvent, on est là et on marche dans notre vie et on se définit, nous, les chrétiens, on se définit comme des pécheurs. On est pécheurs. On a péché, on est privé de Dieu, on ne mérite pas Dieu. On est pécheurs, on a péché, on a fait plein de péchés. Mais la vérité, c'est que Dieu nous connaît, il sait que nous sommes ses enfants et lui nous a rendus saints. Notre identité, ce n'est pas de dire « je suis pécheur », mais notre identité, c'est de dire « nous sommes saints » parce que Dieu m'a rendu saint. Jésus a lavé mes péchés à la croix. Est-ce que tu peux m'afficher le verset de Colossiens 1, versets 20 à 22, qui dit « il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, donc nous étions étrangers et ennemis, par nos pensées et nos mauvaises œuvres, nous avons maintenant été réconciliés. Et écoutez bien le verset 22, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Souvent, on se détermine comme, oui, on est pécheur, mais notre identité... Dieu nous a rendus saints. Oui, on est pécheurs parce que notre chair nous pousse à... Nous ne sommes pas encore glorifiés totalement. Dieu agit en nous au fur et à mesure, petit à petit dans notre vie, et qu'on commet encore des péchés, que notre nature est pécheresse. Ok, mais notre identité n'est plus de commettre des péchés. Notre identité, c'est de commettre, c'est de faire des actions saines, des actions qui plaisent à Dieu, des actions dans l'amour de son prochain, dans la justice, dans la bonté, dans la bienveillance, les fruits de l'esprit, les fruits que Dieu nous donne. Donc, tu n'es plus un pécheur. Dieu t'a justifié et t'a rendu saint, a pardonné tous tes péchés. Maintenant, ton identité, c'est plus de vivre comment, il ne faut pas que je pêche, c'est comment je peux vivre en faisant plaisir à Dieu, en lui rendant gloire. Ok. Pareil, quand Dieu nous voit comme ses enfants et que on arrive et on pêche, on fait un péché. Dieu nous dit, t'es enfant de Dieu. C'est pas ton identité de péché. Ton identité, c'est d'être avec moi et de faire ce qui est bien. Et des fois, ça me fait penser aussi à plusieurs histoires comme ça que j'ai entendues où des parents élèvent un fils et l'enfant est super gentil, il est doux, il aime les autres, il est rempli de compassion quand il est enfant. Et ensuite, quand il est ado, il cherche son identité réellement. Et là, il commence à avoir des mauvaises influences, il commence à être influencé par d'autres personnes qui font le mal, etc. Et lui commence à faire comme les influences qu'il a, il commence à faire des mauvaises choses, commence à briser des cœurs, briser des vies, à faire le mal. Et les parents qui sont là disent, non, c'est pas ça ton identité. Moi, je te connais vraiment, tu faisais pas ça quand tu étais petit. C'est juste ce monde, les influences que tu as dans ce monde qui ont fait que tu pêches maintenant, que tu fais plein de mauvaises choses, mais ce n'est pas vraiment toi. Parce que toi, tu es doux, tu es patient, tu es bon. Je me souviens cette histoire où tu l'as aidé ou ça. Et Dieu nous dit la même chose. Quand nous, on pêche, quand on fait des actions qui ne sont pas bonnes, Dieu nous dit, ça, ce n'est pas toi. Moi, je sais qui tu es réellement. Reviens à moi, je vais te montrer qui tu es. Tu vois, cette personne, va l'aider. Tu vois, cette personne, elle a besoin d'amour. Tu vois, cette personne... Vas-y, je t'envoie. Être enfant de Dieu, ça devrait guider tout ce que nous on fait, tout ce qu'on vit, toute notre manière de penser, notre manière de parler. Dans cette situation, comment un enfant de Dieu doit réagir ? Dans cette situation-là, comment on doit penser, comment on doit réagir ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit parler ? C'est ça notre identité. On doit se poser, on doit arriver dans la vie et dans les décisions qu'on a à prendre. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il ferait ? Comment il agirait ? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que ton enfant ferait, parce que je suis ton enfant. Et je ne suis pas là pour pécher, je suis là pour te plaire. un enfant de Dieu, laissez-moi vous dire, comment faire des actions saines, du coup ? Comment faire des actions, Dieu nous a rendus saints, donc nous devons faire des actions qui rendent gloire à Dieu. Et comment le faire ? Tout simplement par l'amour. Un enfant de Dieu est guidé par l'amour. On doit être enfant de Dieu, et pas dans notre intelligence en se disant on est enfant de Dieu, mais que ça descende vraiment dans notre cœur. Combien de personnes, ça descend juste dans l'intelligence et ils ne vivent pas vraiment ? Mais quand ça descend dans ton cœur, tu commences vraiment à l'expérimenter, à le vivre, et ça change, ça transforme toute ta vie. Et on va lire le livre de Jean, 1 Jean 3, 10, qui nous dit « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Ok ? Bon, ben c'est clair. un enfant de Dieu doit pratiquer la justice et doit aimer son frère. Et c'est une bonne... pendant que moi, je préparais ce message, c'était une bonne remise en question en se disant, est-ce que j'aime mon frère ? Est-ce que j'aime ceux qui sont autour de moi ? Est-ce que j'aime vraiment mon prochain ? Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît si on est enfant de Dieu. C'est Dieu nous... Dieu descend, enfin, quand on accepte, Dieu met son esprit en nous, mais comment on reconnaît ? Par les fruits qui vont, les actions, les fruits qui vont découler de ça. Et donc, comment aimer ? Comment aimer son prochain ? Pour aimer son prochain, comment l'aimer ? C'est en parole et en action. Dans Jacques 1, par exemple, dans Jacques 1, 27, je vais le lire, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, donc notre Père, encore une fois, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc comment on reconnaît un enfant de Dieu ? C'est de mettre l'amour en action. Là, il dit aider les veuves et les orphelins dans l'église où il parlait, dans Jacques, souvent ceux qui avaient le plus besoin, c'était les orphelins et les veuves. Maintenant, dans notre contexte, il y a encore plus de personnes qui ont besoin. On a encore plus besoin de donner de l'amour à ces personnes. Il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin. En fait, moi, ce que je comprends dans ce verset-là, c'est qu'il nous dit les veuves et les orphelins, mais plus encore, tous ceux qui ont besoin d'amour. Et nous devons nous mettre en action pour aller aider, pas juste des paroles, mais aussi des actes et des actions. Comment aimer ? La Bible déclare que aimer, c'est en acte, en action. Parce que, en fait, il y a une vérité aussi dans le royaume de Dieu. Et en ce moment, je lis plein de livres sur des personnes qui ont aimé leur prochain, des personnes qui sont parties en mission, des personnes qui sont restées dans leur ville, qui sont allées dans leur pays, qui sont allées aider. Juste des enfants ou des adultes ou des personnes dans le besoin. Et à chaque fois, je me rends compte, quand je lis leurs livres, qu'au début, ils ont ce zèle, ils sont zélés pour Dieu. Ils ont envie d'aimer, ils ont envie d'aider. Mais qu'ils n'aiment jamais vraiment qu'à partir du moment où ils sont en action. Si on a un problème avec l'amour, c'est qu'on n'aime pas assez en action. Si on n'arrive pas à aimer véritablement, c'est qu'on n'aide pas assez, c'est qu'on n'est pas assez en action. Parce que plus tu vas aider quelqu'un, plus tu vas l'aimer en action, plus tu vas aimer en général. Plus l'amour va grandir, plus l'amour va se développer en toi. Parce que l'amour se développe selon les actions, selon ce que tu fais. Et j'ai marqué, plus tu vas t'approcher des personnes dans le besoin, plus tu vas rentrer dans leur réalité. Donc c'est ça aussi l'amour. C'est pas juste rester dans notre réalité et leur dire « je t'aime », c'est aussi rentrer dans leur réalité. Et de quitter ta zone de confort, plus tu vas aimer, et ça va aller qu'en croissance. Plus tu agis, plus tu aimes. Et y a dans 2 Thessaloniciens 2, ça vient aussi compléter aussi ce que j'apporte, qui dit Dieu, notre Père, donc encore une fois, notre Père, nous a aimés et nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours, et une espérance solide. Nous lui demandons ainsi qu'à notre Seigneur lui-même de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien. En quoi ? En acte et en parole. En acte et en parole. Amen. Nous devons aimer en acte et en parole. J'ai appelé le pianiste, juste le pianiste à venir. Pas le groupe, juste le pianiste. Vous savez, quand je vais raconter, il y a un film qui m'a marqué, je me suis souvenu d'un film quand je préparais ce message. C'est pas le film la référence, mais le film s'appelle Je suis une légende. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, c'est pas la référence, mais bon, on a tous été ados un jour. Et ce film, en fait, donc c'est un film de Will Smith, si vous connaissez. Et lui, dans ce film, il joue le rôle d'un chercheur. Et en fait, son but, c'est de trouver un antivirus, parce qu'en fait, tout le monde, en fait, le monde entier a été envahi par. En fait, il y a un virus qui est venu dans ce monde et qui a infecté tous les hommes. Et lui et un tout petit nombre de personnes n'ont pas été infectées par le virus parce qu'ils ont des anticorps naturels. Et ces personnes doivent vivre cachées, à l'abri, parce que ce virus en fait détruit la vie des gens. Et ces gens-là deviennent, ce sont plus vraiment des hommes, ça devient comme des monstres en fait. Ils font que le mal, ils sont hyper agressifs, ils ne peuvent pas voir la lumière, ils vivent toujours dans l'ombre, toujours dans la nuit. Et ils vivent en communauté, ils attaquent tous ceux qui ont des anticorps. Et donc, toutes les personnes qui sont normales doivent se cacher, doivent vivre cachées. Et lui, son but, en tant que chercheur, c'est de trouver un antivirus pour délivrer exactement tous ceux qui sont contaminés par ce virus. Et il se passe tout ça dans plein de péripéties, et son objectif, c'est vraiment de trouver cet antivirus. Il le cherche, il le cherche, il le cherche. Et laissez-moi vous poser une question. Si vous aviez l'antivirus, vous le propageriez ? Non ? Si on avait l'antivirus, on le donnerait partout. On irait jour et nuit, on le donnerait à tous ceux qui ont aussi les anticorps, à tout ce petit nombre de personnes, on irait tous ensemble, jour et nuit, même s'il y a trop de personnes à délivrer, mais on irait chaque jour et on propagerait cet antivirus partout. C'est notre nature même. Et laissez-moi vous dire que de ce film aussi qui est personnalisé, j'aimerais aussi donner une réponse aussi. De dire que le diable a comme réussi à injecter un virus, c'est une personnalisation, personnification, à donner un virus, le virus du péché, qui entraîne du désespoir, de la haine, de la rancune, de la violence, du découragement, de la détresse, qui nous pousse à vivre dans l'ombre, et que l'antivirus qu'on a, c'est l'amour. Nous sommes enfants de Dieu, Dieu est amour, et Dieu nous donne cet amour à nous, ses enfants, pour aller le répandre partout. Est-ce qu'on répand vraiment cet amour là où on est, en acte et en parole ? Est-ce qu'on répand vraiment de tout notre cœur, de tout notre zèle, de tout ce qu'on peut, on répand l'amour. Dans 1 Jean 3, 16 à 18, il dit, 1 Jean 3, 16 à 18, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Déjà, Jésus est venu à donner sa vie pour nous. Il l'a aimé en action. Il nous a donné l'exemple. Il l'a aimé en action, en parole et en action. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et qu'en voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Que les gens découvrent l'amour, que les gens découvrent l'amour de Dieu au travers de ses enfants, au travers de ceux qui ont dit un jour, « Oui, Seigneur, je décide de te suivre. Je décide de m'engager avec toi. Oui, tu m'as réconcilié, tu as mis ton esprit en moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je te représente. Et je dois vivre cette vie saine. Et comment vivre cette vie saine ? En vivant par l'amour, en acte. La volonté de Dieu, c'est pas que nous vivions dans les plus beaux endroits du monde, dans les plus belles maisons de nos villes. La volonté de Dieu, c'est de vivre là où on peut aider quelqu'un. Et vous savez, comme je disais, je lis des livres actuellement sur, pareil, des missionnaires, des personnes qui ont aidé leurs prochains. Et ils sont tous d'accord pour dire la même chose. Même la Bible aussi le dit. Ne vivons pas dans notre confort, là où on peut rester au chaud. Vivons là où on peut aider quelqu'un. C'est ce que Dieu nous demande, ce que Dieu demande à ses enfants. Quelle différence ferons-nous si nous restons toujours au même endroit? Et si le chercheur avait trouvé le vaccin, qui avait trouvé l'antivirus et qu'il le gardait chez lui, ça serait incompréhensible. Il a l'antivirus, mais il le garde chez lui. Il restait dans sa maison et resterait chez lui. Ça n'a pas de sens. S'il a l'antivirus, c'est qu'il doit le donner, il doit le propager. De la même manière, nous devons nous donner pour les autres. Nous devons aimer en action. Nous devons nous donner totalement parce que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cette identité que Dieu nous donne. Parce que Jésus nous a aimés en premier. Et nous devons aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Donnons notre vie. Ne fermons pas notre cœur face aux autres. Même que chacun s'engage personnellement dans son cœur, selon ce que Dieu lui donne de mettre dans son cœur. Vous savez, je lisais aussi un message et ce pasteur disait, je comprends pas, on a fait aujourd'hui de l'amour de son prochain et de l'évangélisation un choix. C'est-à-dire qu'on arrive à l'église et il y en a un qui partage sur, oui, il a aimé son prochain, il a aidé tant de personnes, il a aimé, il a fait ça, et nous on dit, waouh, bravo, c'est bien. Et après, il y en a un autre qui dit, ouais, j'ai évangélisé à cet endroit-là, dans cette ville, etc. Nous, on dit, waouh, c'est super. Et lui, il dit, bah moi, je n'évangélise pas, j'aime pas mon prochain. Et on dit, ok, c'est ok, ça va. Mais non, ça va pas. Non, ça va pas, c'est pas un choix, en fait. Quand nous sommes enfants de Dieu, l'amour que Dieu a doit descendre en nous et doit nous pousser à aimer notre prochain, doit nous pousser à aimer en action. Pareil, l'évangélisation, c'est quoi? C'est que tu aimes tellement ton prochain que tu peux pas garder la vérité au fond de toi, mais tu dois la porter aux autres, à tes amis ou même à ceux que tu connais pas, mais tu dois te donner totalement. Parce que Dieu met cette vérité en toi que tu ne peux garder. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vraiment donné le message de l'évangile à quelqu'un? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vraiment... Ok, les gens savent qu'on est chrétien dans notre entourage, mais qu'on n'a pas vraiment expliqué l'évangile à cette personne. Ça fait combien de temps, réellement? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas aidé quelqu'un en action, avec de tout notre cœur? On ne doit pas agir contre nature. On doit agir dans la nature que Dieu nous donne, c'est d'aimer notre prochain. Nous sommes enfants de Dieu. Et cette nature-là nous donne d'aimer en action, d'y aller de tout notre cœur. Amen. J'ai invité le groupe de louanges à revenir. Je vais conclure mon message. Laissez-moi vous donner une dernière image. Cette image m'a frappé. Il disait, si aujourd'hui tu vois, tu sors, enfin, t'arrives devant ta maison est en feu et ton enfant est dedans. Est-ce que tu attends que quelqu'un reçoive l'appel de Dieu pour aller chercher ton enfant? Ou est-ce que t'arrives, tu enfonces la porte et tu vas le chercher? Est-ce que nous nous mettons vraiment en action ou est-ce que nous attendons que les autres soient appelés par Dieu pour y aller? Dieu nous appelle tous. Dieu nous appelle tous du fond de notre cœur. Ouvrons notre cœur à Dieu. Ouvrons-lui, donnons-lui notre vie. Et nous verrons, et vous verrez, chacun de nous verrons que Dieu va agir, va mettre à cœur des choses que nous allons faire, que nous allons donner. Que vraiment chacun s'examine. Sommes-nous prêts à payer le prix? Parce que ça reste un prix à payer. Ça reste un prix à payer d'aimer. Ça donne de mourir à soi-même. Ça donne de mourir à soi-même pour les autres. Exactement ce que Jésus a fait pour nous. De venir dans notre réalité, pas d'en rester dans sa zone de confort, il est venu dans notre réalité, dans notre monde, pour nous aider. De la même manière, nous devons rentrer dans la réalité des gens qui ont besoin pour aller les aider. En acte. Vous savez, le soir, avant d'être crucifié, Jésus a annoncé à son Père, « Je t'ai donné gloire sur terre en achevant le travail que tu m'as donné de faire. » Est-ce que vous serez capable de dire ça à la fin de votre vie? De dire, « Seigneur, je t'ai donné gloire sur terre, pas honte, je t'ai donné gloire sur terre en achevant le travail que tu m'as demandé, qui était d'aimer mon prochain comme moi-même. Je l'ai vraiment fait en action. Et maintenant, Seigneur, vas-y, prends-moi. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai donné ma vie pour les autres. Et pour conclure, je vais donner un petit témoignage personnel. On ne l'a pas encore fait, mais avec le groupe de maison des jeunes adultes, on a eu à cœur d'aider notre prochain. Et on n'a pas pu le faire vendredi dernier, mais vendredi prochain, on va aller, nous, ce qu'on a eu à cœur, c'est d'aller faire les maraudes, d'aller aider les personnes, les SDF, etc. Et en le faisant, quand j'ai vraiment réalisé et réfléchi sur ce que nous, on s'est dit, on n'a pas reçu d'appel particulier. On n'a pas reçu l'Esprit de Dieu qui nous a tous bouleversés. On s'est dit, il faut aller aider. On est juste venus. Tous les vendredis, on s'est réunis. Tous les vendredis, on a lu la parole. On a partagé ce que chacun avait sur le cœur. On a étudié ensemble la parole. On a prié les uns pour les autres. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a dit, j'aimerais bien qu'on aille aider. Il y a un autre qui dit, c'est exactement ce que je pensais. Il y a un autre qui dit, on peut aller aider les SDF. Il y a un autre qui a dit, vas-y, on programme, quelle date? On y va. On va le faire. Tout ça, pourquoi? On a lu la parole. On a prié les uns pour les autres. On a médité ensemble. Et Dieu nous a donné, et Dieu nous donne au fur et à mesure son caractère à lui, l'amour. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vraiment ce à quoi je veux vous appeler ce matin. Prenons l'engagement d'aimer notre prochain en amour, d'aimer notre prochain en acte. Et j'aimerais qu'on se lève, on va terminer. Vous savez, je crois que c'est pas un hasard si Didier, déjà il y a quelques semaines et même souvent dans l'année, il partage sur l'amour. Et moi, j'ai compté la moitié de mes messages sur l'amour. Peut-être je me dis, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Ou il y a un truc qui nous manque. C'est à chaque fois qu'on prépare un message, il y a Dieu qui nous rappelle, il faut aimer notre prochain, il faut qu'on aime. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on rate ou il y a un truc qu'on passe à côté? Si Dieu à chaque fois nous dit, vas-y, parle sur l'amour. C'est peut-être qu'il y a un truc que Dieu veut qu'on fasse, mais qu'on ne l'a pas encore fait. Et peut-être que c'est d'aimer en action, plus encore que ce qu'on fait maintenant, plus encore qu'actuellement. Est-ce que quand on va rentrer, on va discuter, on va vivre la communion fraternelle ensemble, on va rentrer, on va dire, ah, le message c'était bien ou c'était pas bien, ou peu importe, et on va oublier. Et la prochaine fois qu'on va préparer des messages avec les prédicateurs, Dieu nous dira toujours, parle sur l'amour, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Ou est-ce qu'on va se décider de se lever et de dire, oui, je comprends vraiment ton appel, Seigneur, ton appel, ta volonté, quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu. Des fois, on se pose des questions, on dit, ah, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie, la décision de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu aimes ton prochain. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on choisit de répondre à l'appel de Dieu, ou on choisit de l'oublier encore? Le défi que j'aimerais vous donner, vous lancer, durant tous les prochains jours, durant même toute l'année qui va suivre, c'est que déjà, on arrive dans chaque personne qui sont membres d'un groupe de connexion, qu'on puisse discuter ce mardi ou ce mercredi de comment on peut aimer notre prochain. Qui a à cœur d'aider quoi? Qui a à cœur d'aider une association peut-être? Peut-être des personnes, des enfants qui sont dans le besoin, une famille qui est dans le besoin, des amis, des proches, qui on a à cœur d'aider. Et qu'on discute ensemble et qu'après on se donne de dire, ok, chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque toutes les 6 semaines, on va sortir de nos maisons, on va sortir de notre zone de confort et on va aller aider ceux qui sont dans le besoin. Et la deuxième chose, c'est que qu'on le fasse avec notre groupe de connexion. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir de groupe de connexion, qui travaillent, etc., que vraiment on se le dise à nous, tout seul ou en famille, avec notre famille aussi ça marche, se dire, on va aider un tel. Des fois, des petits actes, des petites choses remplisse le cœur des gens. Parce que les gens, c'est pas les... ce qu'on leur offre, c'est le cœur qu'on a des fois qui touche, qui transforme. Et que vraiment, on sente vraiment de dire et de donner l'amour autour de nous, dans notre groupe de connexion, avec nos familles et nous-mêmes. Et qu'on soit vraiment attentif à ce que Dieu met dans notre cœur et qu'on puisse vraiment être libre de le partager. Parce que je crois que Dieu met des choses en nous, dans notre cœur. Amen. Je vais juste prier pour terminer. Et après, on va chanter. Seigneur Jésus, je te prie vraiment, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas encore tes enfants, que nous puissions, Seigneur, t'accepter, se rendre compte, Seigneur, de qui tu es réellement, de ton amour pour nous, de ta bonté, de, Seigneur, de toute ta grâce et de toute ta splendeur, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur, pour tous ceux qui sont tes enfants, Seigneur, tous ceux qui ont décidé de te suivre, qui sont réconciliés, et tous ceux, Seigneur, où tu as mis ton esprit en nous, que vraiment, Seigneur, tu nous oignes, Seigneur, de ton amour pour les autres. Que vraiment nous puissions être zélés, Seigneur, pour apporter ta parole, pour apporter ton amour avec force, avec compassion, avec empathie, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas fermer notre cœur à notre prochain, mais à toujours être ouvert et à toujours, Seigneur, nous donner notre vie comme un sacrifice vivant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, d'aimer en action, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. D'aimer nos frères et sœurs, d'aimer, Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous et de le répandre avec amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu agis en nous, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu nous remplisses de toi. On a tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais et que vraiment, Seigneur, au fur et à mesure qu'on va aider, que ton amour puisse grandir et que ton amour puisse vraiment prendre total contrôle de nous, Seigneur, pour vivre cette vie auquel tu nous as appelés. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais aussi, juste, pendant qu'on va chanter, à la fin, s'il y a des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur et vous décidez, vous avez envie qu'on prie pour vous, bah, je serai ici. Et si vous souhaitez qu'on prie, bah, on peut prier, il n'y a pas de souci. Je serai juste devant ici.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'as chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Disons-le ensemble.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Avant ma naissance,
tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave pour avoir peur. Je suis enfant de Dieu. se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mais par ce noir dans ton amour, tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant.
Message qu'on a pu avoir cette semaine de la part de Thomas. Et vraiment, je vous invite à appliquer vraiment ce qu'il a dit, dans le sens où aimer en action et en parole. Et vraiment, en action, ça veut dire que vous pouvez juste envoyer un message à quelqu'un, vous pouvez juste témoigner à quelqu'un de l'amour en lui disant que vous l'aimez, en lui disant à quel point il compte pour vous. Et vraiment, ça vraiment, c'est vraiment des petites choses, mais qui refont peut-être même la journée, la semaine, peut-être même la vie de certaines personnes. Donc vraiment, pensez-y cette semaine, juste un message, une parole, quelque chose. Pour la semaine prochaine, comme vous le savez, on a les portes ouvertes. Et vraiment, on vous invite à inviter, c'est pas bizarre, à inviter quelqu'un. Vraiment, venez avec quelqu'un. Ça aussi, ça peut juste être un acte d'amour. Vous lui proposez de venir. Ça peut vraiment changer sa vie. Et au-delà de ça, on vous demande également si vous pouvez de ramener un dessert et un entrée. C'est un par famille. Et une entrée, excusez-moi. C'est un des deux, enfin les deux par famille. Autre chose, je vais demander s'il vous plaît à Marie de lever la main. Elle déménage dans quelques semaines et elle aurait vraiment besoin de personnes pour l'aider à déménager. Donc ça aussi, c'est un acte d'amour. Donc elle voudrait voir si le samedi prochain, j'ai pas la date, excusez-moi, ou le samedi d'après qui sera le 20, samedi 14 ou samedi 21, si vous pouvez aller la voir juste pour lui proposer votre aide. Elle en a vraiment besoin pour son déménagement. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine dans la présence de Dieu. On se revoit la semaine prochaine, même lieu, même heure.